Bonjour à tous.
Il y a encore quelques années, il y aurait le fonctionnaire, le collègue aurait pu être agressé par un ou deux individus, puis le reste de la foule les aurait retenus, ou aurait même relevé le collègue pour le faire partir, aurait fait un mur ou une barrière pour éviter une agression plus grave. Et là, on voit bien que ça s'est agrégé. Les gens regardent ou ils participent, mais ça reste un homme qui est à terre. Et on va se retrouver avec 5 ou 10 personnes dessus. Il y a quelque chose qui cloche.
On se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce que ça vaut la peine? Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas suffisamment soutenu. On n'est pas suffisamment soutenu comparé au risque qu'on prend. J'ai l'impression qu'on nous lâche très très facilement. Forcément, tout de suite, on voit une image et on est jugé dessus.
Ça peut être aussi une source de violence. C'est-à-dire que on parle beaucoup de violence policière. Je suis convaincu que dans les causes des violences policières, il y a le fait que les policiers eux-mêmes se sentent mal et sont pas reconnus. Donc à partir du moment où on ne se sent pas protégé par l'institution, pas reconnu par l'institution, on n'est pas en mesure de protéger la population qu'on est censé protéger. Donc ce sont deux faces d'une même médaille.
Bonjour à tous, je suis Sinamir et vous écoutez Immersion, le podcast de reportage de la rédaction d'RTL. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, on évoquait ensemble les violences policières à travers le mouvement Black Lives Matter. Aujourd'hui, vous entendez peut-être les gyrophares, les appels radio. Cet épisode débute dans un camion de police pour entendre, tenter de comprendre en discutant avec ses fonctionnaires le malaise qui gagne de plus en plus de commissariats. Pour beaucoup, 2020, en plus de la pandémie, a été l'année du police bashing, pour reprendre leurs mots, face aux images, face aux reproches qui vont avec, face aux agressions de policiers, face aux samedis de manifestation qui se répètent, face aux mots aussi d'Emmanuel Macron en fin d'année, qui ont pu être vécus comme une trahison lorsque le président a évoqué dans une interview les contrôles aux faciès et les violences policières en pleine polémique sur la loi de sécurité globale et son article 24 au sujet de la diffusion des images de policiers. C'est justement dans une manifestation contre ce texte que commence cet épisode. Nous sommes le samedi 17 janvier en début d'après-midi. On parcourt les rues du 12e arrondissement de Paris avec les hommes et la compagnie du commandant Pierre, chargé de sécuriser une partie de cette manifestation et qui tente d'interrompre, en marge du cortège, une rave party dont vous entendez peut-être les décibels, une rave party qui s'est organisée sur la voie publique.
Vous montez en tête de colonne voir le commandant.
Allez, on roule. Et puis là-bas. Ouais, brave 2, brave 11, on va faire mouvement.
Donc bonjour, je suis le commandant Pierre, je suis le chef de la 32e compagnie d'intervention à la préfecture de police.
Brave 2, brave 11, mouvement.
Je suis policier depuis 15 ans, une quinzaine d'années, exclusivement du maintien de l'ordre. Donc j'ai commencé en CRS et maintenant en compagnie d'intervention. Et je suis à la tête de la compagnie depuis 2 ans.
La présence de deux chars, là, on a déjà 300-400 personnes qui se rassemblent.
Il faudra tenir la rue tournée à droite parce que les collègues de la CRS sont bas, ils tiennent à gauche, ils battent plus fort sur la droite.
Donc je mets le casque parce que tout simplement je sais que je suis appelé expressément pour évacuer la rue, pour libérer la voie publique comme on appelle. Donc je sais que fatalement on risque de prendre des projectiles ou la tension va monter naturellement. Donc j'ai l'obligation, et c'est ma première démission aussi, c'est de prendre soin de mes collègues qui sont sous ma responsabilité. J'ai pas envie de ramener un blessé à la, comment on dit, à la maison.
Allez, on glisse. Les gars, naturellement, on glisse. Deuxième sommation. Obéissance à la loi. Dispersez-vous.
On met pied à terre. Comme vous l'avez constaté, on avance sur eux. Le commissaire, ce qu'on appelle l'autorité civile, fait des sommations, c'est-à-dire leur explique qu'il faut quitter la zone parce que malheureusement, ils n'ont pas le droit d'être là. C'est un acte illégal.
Vous progressez tranquillement. Hein. Dernière sommation. Nous allons faire usage de la force.
S'ils décident de ne pas quitter la zone, il faut en assumer responsabilité, c'est-à-dire que des forces de l'ordre vont les pousser. Donc pas de manière agressive ou violente, c'est-à-dire on va les repousser, on va ce qu'on appelle libérer la voie publique, ce qu'on est amené à faire. Et comme vous l'avez constaté, ben, dès qu'on avance... C'est des projectiles, c'est des canettes de bière, c'est des bouteilles en verre, c'est des refus tout simplement de se déplacer ou de bouger de leur point. Y en a qui se réfugient dans les camions sonos. Donc c'est un peu le bazar, si je peux dire ça comme ça. Et on voit que le casque, c'était une bonne intuition, une bonne décision.
Ça fait 15 ans que vous faites ça. En 15 ans, on dit que les agressions sur les policiers, selon les chiffres de la DGPN, ont doublé. Vous, en manifestation, vous le voyez, qu'il y a une virulence, qu'il y a des risques supplémentaires, qu'il y a une violence auxquelles vous exposez vos hommes.
Je trouve que l'évolution, justement, avant, il y avait un filtre. C'est-à-dire qu'il y avait moins de personnes qui osaient franchir le pas de la violence, parce que psychologiquement, c'est une décision lourde de s'en prendre à des forces de l'ordre. Donc avant, sur un groupe, il y avait quelques individus qui le faisaient parce qu'ils étaient incontrôlables ou c'était une volonté. Maintenant, ils entraînent avec eux d'autres personnes qui, avant, ne passaient pas à l'acte. C'est-à-dire il y a un mouvement d'entraînement, il y a un mouvement de groupe. Il y a plus une libération de la violence dans le sens où, comme je vous dis, avant, sur 100 manifestants, on en avait un ou deux difficiles à gérer. Maintenant, sur 100, on en a 10.
Et si vous voyez tout risque de débordement, il faut absolument filmer. S'il y a des violences policières, on ne pourra pas les empêcher, mais on pourra toujours les filmer. Ça ne veut pas dire qu'il faut les engrainer. On fait cette manifestation dans le respect de tous. Mais important, la seule arme qu'on a, c'est vraiment de filmer et d'avoir des traces.
Et c'est cette volonté de nous mettre en porte-à-faux, ou d'attendre le mauvais geste, ou d'attendre la mauvaise parole, ou d'attendre, comme on dit, la bavure, pour pouvoir s'en servir médiatiquement sur les réseaux sociaux. Donc c'est un facteur à prendre en compte également. Sinon, il faut changer de métier, il faut changer de branche. Chaque spécialité a ses particularités. Nous, ça fait partie, je dis pas que ça fait plaisir, mais ça fait partie du métier. On peut pas répondre aux provocations.
Allez, on le dit comment quand on commande ces hommes comme ça?
Difficilement, parce que comme je vous l'ai dit, on se sent responsable et c'est sincère. On connaît les familles, on connaît les gens, on a envie de les ramener chez eux. On n'est pas envie, comme ça m'est malheureusement arrivé, sur ce que je vous dis sur le collègue le pompier, aller à l'hôpital le lendemain pour le voir et voir la famille. Donc oui, c'est difficile. Après, ça fait partie du boulot.
Vous entendez beaucoup de voitures, on a pourtant quitté Paris, on est au milieu de la campagne maintenant, au milieu des champs, pour venir rencontrer un fonctionnaire qui pendant plusieurs années, et surtout ces deux dernières années de conflits sociaux importants, a bien côtoyé les manifestations et vient de demander sa mutation. Oui, bonjour, c'est RTL.
Oui, bonjour.
Je voulais savoir, alors je suis au niveau du 4 de la rue, enfin juste en face, devant une maison blanche, je ne sais pas si c'est là ou si c'est ailleurs.
Je vais sortir, ce sera plus simple. Allez-y.
Je salisse pas.
Ils sont pour
que je repasse la balise de sortie.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Jacques, 14 ans de service.
Quel regard vous portez ? Je crois que vous êtes en train d'essayer de changer en tout cas d'affectation. Quel regard vous portez là-dessus ? Vous en pouvez plus après toutes ces années passées sous le casque et sous votre équipement ?
Je pense que y a un moment où il faut faire un break. Parce que je me connais, je sais que je suis résistant, mais même moi, je sentais que celui dans les manifestations, j'étais un peu moins serein, j'étais un peu moins... Plus facilement, j'aurais pu plus facilement faire de mon flegme. Donc, je préférais avant de faire une bêtise, parce que le problème, c'est qu'on ne verra pas les 14 ans où j'ai bien travaillé, on verra la fois où j'ai dérapé. Et ça, c'est dans toute la police. Et j'ai une famille. Donc je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi ou de même finir en prison parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller.
Vous avez été vous-même déjà blessé en manifestation ?
À de multiples reprises. J'ai eu des projectiles au niveau de l'épaule où j'ai eu des pavés un peu partout sur le corps parce que forcément ça tombe où ça tombe. On est là pour aider, on est là pour éviter que la République tombe parce qu'on est quand même on est au dernier rempart. Il y a plus d'une fois où je me suis dit heureusement qu'on était là parce que sinon c'était l'anarchie. C'est pour ça que j'ai tenu aussi longtemps, mais là j'en pouvais plus.
Quand vous dites on a le sentiment d'être lâché, vous avez le sentiment d'être lâché par qui ?
Ben, ça va du chef de l'État qui a de beaux discours, mais dès qu'il y a quelque chose, il prend pas le temps d'attendre les conclusions, de savoir est-ce que c'est vraiment l'image prise ou est-ce que ce qui s'est passé avant, après, est-ce que ça se justifiait, est-ce que ça se justifiait pas. On est vite jugé sur une image. J'entends certains préfets qui vite se déballonnent sur certaines choses qui se sont passées. Des patrons aussi qui prennent pas leur responsabilité sur certaines choses. On a un objectif. On essaie de l'atteindre, on essaie de faire les choses plus proprement possible. Je suis obligé de parler proprement, mais en manifestation, la propreté, ça n'existe pas. Et nous, on doit gérer tout ça. Et c'est quand il y a des gens qui vous crient « suicidez-vous, suicidez-vous », ça veut dire que notre vie ne vaut pas grand-chose. De mon point de vue, je le ressens comme ça. Même si maintenant, ces gens de personnes, leur vie ne m'importe guère. Mais pour eux, ça veut dire qu'on est des sous-hommes, oui. Donc, et quand on voit la réponse pénale, j'ai l'impression qu'ils vont dans leur sens. C'est l'impression que j'ai, en tout cas.
Je vais vous faire écouter. Aussi, ce jour-là, après ça, j'étais donc moi en reportage à ce moment-là, il faut que je le retrouve, mais j'ai demandé aux manifestants pourquoi ils en arrivaient à ça.
C'est toute l'institution policière qui va changer. Ils sont éduqués à nous frapper, à nous violenter, à nous tuer. Non. Et pourquoi est-ce que les gens ils jettent des bouteilles, ils jettent des trucs comme vous dites? Pourquoi est-ce qu'ils brûlent? Parce qu'ils en ont marre. Parce que tous les jours tu vas au travail, tous les jours tu te dis merde, mais je me fais avoir.
Bah, au bout d'un moment, tu crois. Allez, devant, faut aller la chercher.
C'est un rapport de force. Exactement. C'est tout. C'est un rapport de force. Après, on pourra avoir la parole. Sans rapport de force, sans casse, on parle pas de nous. C'est eux qui ont instauré ça. Ils ont la monnaie de leur pièce. Tout simplement, ils ont la monnaie de leur pièce.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ça ?
Que si franchement on était ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'on était là, qu'on était des flics, violeurs, assassins, ça c'est... je me demande dans quel état serait le pays. Donc oui, il y a des collègues qui font des conneries. Il y a même, dernièrement, il y a une policière qui avait réussi son concours et qui faisait partie d'un braquage. Donc oui, il y a des policiers qui déconnent. Pour reprendre les propos d'une certaine personne. On est à l'image de la société, donc il y a forcément des collègues racistes. Mais moi, de mon point de vue, j'ai toujours travaillé de façon très propre. Je suis entré par vocation et je reste pour l'alimentaire. Vous vous rendez compte ? C'est ça le pire. On en est là, c'est-à-dire que là, je suis entré parce que je voulais être policier et là, je reste parce que c'est mon salaire, en fait. Et là, quand on en arrive là, ça fait peur.
Vous allez prendre le les ascenseurs sur la gauche, vous descendez au moins 1, et juste sur la droite, après l'ascenseur, vous avez service de médecine légale.
D'accord.
C'est bon pour vous ?
Oui.
Vous rentrez, son bureau, il est sur la droite, droite-gauche.
Alors, répétez-moi, excusez-moi.
Alors, vous prenez le couloir. Oui. À gauche, au bout du couloir, vous avez des ascenseurs. Vous descendez au moins 1. Tout de suite à droite, il y a le service de médecine légale. Vous rentrez, quand le service est de porte battante, un peu comme celle-ci. Vous rentrez, son bureau, il est droite et gauche.
D'accord.
Je pense qu'il vous attendra.
Je vais le trouver. Merci. Bonjour. Je peux rentrer à l'intérieur de votre bureau, on peut se mettre ici?
Oui, bien sûr.
Bonjour, je suis Patrick Chariot, je suis chef de service de médecine légale et de médecine sociale à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, donc en Seine-Saint-Denis. Et on reçoit en particulier des policiers qui sont victimes de violences dans l'exercice de leurs fonctions.
Combien l'année dernière vous avez accueilli de fonctionnaires ici?
Oh, plusieurs centaines.
Pour quel type de blessure, quel type de violence subie, quel type d'agression grosso modo?
Alors il y a l'officiel et l'officieux, c'est-à-dire que l'officiel, ce qui apparaît de manière immédiate et écrite, c'est habituellement des violences lors d'une interpellation, qui se passe mal. Ça c'est la partie visible immédiatement. En fait, il y a d'autres violences auxquelles on assiste, qui sont des violences verbales, des violences psychologiques, que les policiers ont plus de difficultés à rapporter, parce que c'est sans doute pas tellement la culture de corps. Quand un automobiliste ou un conducteur de scooter fonce dans un barrage de police, ça, ils n'ont pas de difficulté à en parler, parce que ça, c'est visible, c'est spectaculaire. Donc là, ils peuvent en parler. Quand c'est être traité de fils de pute 10 fois par jour, ça, ils vont pas en parler, parce que on arrive à la situation extraordinaire, à mon avis inadmissible, qui considère que ça fait partie du métier. Ça fait partie d'aucun métier d'être traité de fils de pute 10 fois par jour.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous, dans cette cellule, dans cette unité?
Ça fait 15 ans.
Depuis 15 ans, chaque année, vous voyez des centaines de policiers?
Ah oui. Ça, c'est le quotidien. Il faut du temps et il faut des espaces protégés, des espaces dédiés pour que les fonctionnaires acceptent et puissent parler de ce type de souffrances qui sont beaucoup plus importantes en fait et beaucoup plus fréquentes que les violences lors d'interpellations. Parce que ça ressemble à un aveu de faiblesse de se dire ben non, ça va pas. Le risque réel ou supposé, c'est d'être mis à l'écart par ses collègues. En disant, ah bah non, lui, il va pas bien, donc on sait pas ce qui va arriver. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place par la préfecture de police, par le ministère de l'Intérieur. Ça, on sait, il y a des psychologues, il y a des médecins qui consultent. Mais le problème majeur, c'est la porosité réelle ou perçue entre ces dispositifs d'écoute et d'accompagnement et puis la médecine de contrôle qui va aboutir à l'aptitude, une décision d'aptitude ou d'inaptitude, au fait qu'éventuellement le policier va être désarmé, et donc ça, ils en ont une peur, une trouille bleue, et ce qu'on peut comprendre. Donc, certains policiers sentent en confiance avec les dispositifs mis en place par l'institution, pour beaucoup, c'est pas le cas.
Simplement, là, il y a une réunion ministérielle, un colloque, un Beauvau de la sécurité qui est lancé pour essayer d'améliorer les conditions des policiers. L'accompagnement psychologique, la prise en charge, ne fait pas partie des 7 péchés capitaux énoncés par le ministre. Il y a un manque là-dessus pour vous aujourd'hui?
Ah bah c'est un mot, vous me l'apprenez, mais c'est un manque criant. C'est-à-dire que, certes, j'imagine que dans les priorités, on doit parler de la formation, mais la formation, ça devrait déjà d'emblée inclure des aspects psychologiques, et dans les suites, il y a l'accompagnement au quotidien dans des structures en quelles les policiers ont confiance et se reconnaissent. Le pire des violences, c'est les violences invisibles. C'est quand on a une jambe cassée ou un doigt cassé, là tout le monde se dit ah bah il s'est passé quelque chose de grave. Quand il n'y a pas de bleu, quand il n'y a pas de trace,
Ça, c'est les situations qui font les plus mal, parce que même la personne qui en est victime ne s'autorise pas à dire qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, puisque ça ne se voit pas. Donc si ça ne se voit pas, personne ne va le voir, donc personne ne va le prendre au sérieux. Et même, au pire, elle non plus ne va pas s'autoriser à se dire « je peux aller mal, j'ai des raisons d'aller mal », puisqu'on ne voit rien. Le risque suicidaire, il est majeur quand on a l'impression d'être dans une impasse. Ça ne concerne pas que les policiers, mais ça les concerne aussi.
Brave 2, brave 11, 2PK, le but de la manœuvre, c'est de figer la situation, de procéder au contrôle, éventuellement la verbalisation. On verra le NASPIN ultérieurement. On descend avec le matériel, casque aux côtés, les boucliers.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion consacré au malaise dans les rangs de la police. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes précédents du podcast de reportage de la rédaction des RTL sur notre appli, sur le site RTL bien sûr, sur l'application AudioNow, tiens, que je vous invite à découvrir, et puis sur l'ensemble de vos plateformes de podcasts habituelles. Et puis moi je vous dis à très vite.